Chapitre 11 D'une simplicité toute pastorale. Après avoir introduit le lecteur au milieu de ce respectable personnel du château, dont la simplicité et l'innocence toute champêtre montrent victorieusement la supériorité de la vie de la campagne sur celle de la ville, nous devons aussi lui faire connaître les parents et voisins du seigneur de l'endroit, le ministre Bute Crawley et son épouse. Le révérend père Bute Crawley était d'une taille élevée et majestueuse, d'une humeur joviale, et portait des chapeaux à large bord. Dans le comté, il jouissait d'une popularité bien plus grande que le baronnet son frère. Au collège, il était la meilleure rame de l'embarcation de Christchurch. Il avait cassé les dents au meilleur boxeur de la ville. Dans la vie privée, il n'avait pu se détacher entièrement de ses goûts pour la boxe et les exercices gymnastiques. Point de combat à 20 000 à la ronde, auquel il ne fut un des premiers. Pas de course de régate, de soirée d'élection, de dîner de confrères, pas de grand gala enfin dans le comté sans qu'il fût de la partie. On était sûr de rencontrer sa jument noire et les lanternes de son cabriolet à 6 000 de la cure, toutes les fois qu'il y avait un dîner à Fuddleston, à Roxby ou à Wapshot Hall, ou chez les gros bonnets du comté, avec lesquels il était dans les meilleurs termes. Il avait une jolie voix, chantait le vent du midi et le ciel nuageux, courait le cerf en casaque de jockey et passait pour l'un des meilleurs pêcheurs du comté. Mrs. Crawley, la femme du recteur, était une petite créature fort remuante qui composait les célestes homélies de son époux. Ménagère par excellence, elle avait avec ses filles la haute main dans la maison. Au presbytère, elle régnait en despote, laissant pour tout le reste carte blanche à son mari. Il pouvait aller et venir, dîner dehors autant que son caprice le lui disait. Quant à Mrs. Crawley, c'était la femme économe qui sait le prix du vin de Porto. Depuis l'enlèvement du jeune ministre de Crawley la Reine par Mrs. Bute, elle appartenait à une bonne famille, elle était fille de feu le lieutenant-colonel Hector MacTavish, avait joué Bute contre sa mère et avait gagné la partie. Cette dame était dans toute sa vie un modèle de sagesse et d'économie. Mais malgré tous ses efforts, son mari restait criblé de dettes. Il lui avait fallu 10 ans pour acquitter ses notes de collège qui remontaient au vivant de son père. En 1790 et quelques, comme il venait de se mettre à jour de son art d'erré, il paria de grosses sommes contre Kangourou qui gagnait le prix aux courses de Derby. Le ministre, obligé d'emprunter à de ruineux intérêts, s'était toujours trouvé gêné depuis. Sa sœur, de temps à autre, lui donnait bien 100 000 de livres sterling, mais c'était sur sa mort qu'il fondait ses plus belles espérances. « Il faudra bien que le diable s'en mêle, disait-il, ou Mathilde me laissera au moins la moitié de son argent. » Le baronnet et son frère avaient donc les meilleures raisons du monde pour être tous deux comme chien et chat. Sir Pitt l'avait toujours emporté sur Bute dans les transactions de famille. Le jeune Pitt, qui n'avait pas même le mérite d'aimer la chasse, s'était avisé d'élever une chapelle à la barbe de son oncle. Enfin, Rodon devait venir en partage dans la succession de Miss Crawley. Ses affaires d'argent, ses spéculations sur la vie et la mort, inspiraient aux deux frères, l'un pour l'autre, une de ces tendresses comme on en voit dans la foire aux vanités. Pour ma part, je ne connais rien comme un billet de banque pour troubler et rompre entre deux frères une affection d'un demi-siècle. Et je ne puis me lasser de penser que c'est une belle et admirable chose que l'affection entre gens du monde. Il n'était pas à supposer que l'arrivée de Rebecca à Crawley la Reine et ses progrès successifs dans les bonnes grâces des habitants du lieu passeraient inaperçus pour Mrs. Bute, qui savait combien un aloyau faisait le jour au château, combien il y avait de linge sale aux grandes lessives, combien de pêche sur l'espalier du midi, combien Milady prenait le pilule quand elle était malade, car en province, pour certaines personnes, ce sont là des matières du plus haut intérêt. Mrs. Bute ne pouvait donc laisser arriver l'institutrice au château sans instruire une enquête sur ses antécédents et son origine. D'ailleurs, la meilleure entente ne cessait de régner entre les serviteurs de la cure et ceux du château. Il y avait toujours à la cuisine du presbytère un bon verre d'ale pour les gens du château dont la ration à l'ordinaire était fort congrue. Mais en revanche, la femme du ministre savait à une mesure près ce qu'il entrait de pierre dans chaque tonneau du château. Sans compter que des liens de parenté existaient entre les domestiques comme entre les maîtres. Par ce canal, chaque famille était mise au courant des faits et gestes de ses voisins. Règle générale, êtes-vous bien avec votre frère? Ses actes vous sont indifférents. Êtes-vous en pique avec lui? Vous êtes informé de ses allées et venues comme si une police secrète était à votre disposition. Peu après son arrivée, Rebecca eut une place officielle dans les bulletins que Mrs. Crawley recevait du Hall. Voici un spécimen. On a tué le cochon noir. Il pesait tant de livres. On a salé les côtes. À dîner, on a servi un pudding de porc. Monsieur Crump de Madbury, assisté de Sir Pitt, a mis John Blackmore sous les verrous. Monsieur Pitt a tenu un meeting. Nom des assistants. Rien de nouveau pour Milady. Les jeunes demoiselles sont avec leur gouvernante. Le rapport continuait ainsi. La nouvelle gouvernante est une excellente ménagère. Sir Pitt est fort prévenante avec elle. Monsieur Crawley aussi. Il lui lit ses brochures. « Voyez, c'est intrigante, » disait la petite, vive, alerte et noiraude, Mrs. Crawley. Les rapports finirent par dire que l'institutrice avait circonvenu tout le monde. Elle écrivait les lettres de Sir Pitt, expédiait ses affaires, dressait ses comptes, menait à sa guise toute la maison, Milady, Monsieur Crawley, les petites filles et le reste. Sur quoi Mrs. Crawley déclarait que c'était une artificieuse coquine et qu'elle avait en tête quelques terribles projets. Les événements du château faisaient ainsi le principal sujet des conversations à la cure, et les yeux perçants de Mrs. Bute Crawley voyaient les moindres mouvements du camp ennemi, et plus encore. Mrs. Bute Crawley à Miss Pinkerton, la Mole Chiswick. De la cure de Crawley la reine, décembre. Ma chère madame, les années écoulées depuis l'époque où je jouissais de votre agréable et précieux enseignement n'ont rien changé au sentiment de tendresse et de respect que j'ai conçu pour Miss Pinkerton et le cher Chiswick. J'espère que votre santé va toujours bien. Puisse le monde et la cause de l'enseignement conserver, pour leur plus grande gloire et pendant de longues années encore, Miss Pinkerton. Une de mes amies, Lady Fuddleston, me demandait une gouvernante pour ses chères filles. Je n'ai pas, hélas, le moyen d'en avoir une pour les miennes. Mais n'ai-je pas été élevé à Chiswick? Qui, m'écriai-je aussitôt, pouvons-nous mieux consulter que l'excellente et incomparable Miss Pinkerton? En un mot, chère madame, avez-vous à votre disposition quelques demoiselles dont les services puissent être utiles à ma chère amie et voisine? Elle est résolue, je vous assure, à n'accepter de gouvernante que de votre main. Mon cher mari prend plaisir à répéter qu'il aime tout ce qui sort de la maison de Miss Pinkerton. Je voudrais bien la présenter, ainsi que nos filles bien-aimées, à l'amie de ma jeunesse, à la femme qui faisait l'admiration du grand lexicographe de notre pays. Si jamais vous passez par le Hampshire, M. Crawley me charge de vous dire qu'il espère pour notre presbytère de campagne l'honneur de votre présence. C'est maintenant l'humble mais heureuse demeure de votre affectionnée Martha Crawley. P.S. Le frère de M. Crawley, le baronnet, avec lequel nous ne sommes pas, hélas, dans les termes de cette parfaite concorde qui devrait toujours régner entre frères, a pour ses petites filles une gouvernante qui, à ce qu'on m'a dit, a eu le bonheur d'être élevée à Chiswick. Il m'est venu des bruits assez contradictoires sur son compte. Mon tendre intérêt pour mes petites nièces, qu'en dépit des différentes familles, je veux toujours considérer comme mes propres enfants, mes sympathies pour tout élève qui sort de chez vous, me font, ma chère Miss Pinkerton, vous demander l'histoire de cette jeune demoiselle dont, à votre considération, je suis très désireuse de devenir l'amie. M.C. Miss Pinkerton à Mrs. Bute Crawley, Johnson Home, Chiswick, décembre 18. Chère madame, j'ai l'honneur de vous annoncer réception de votre précieuse lettre et m'empresse d'y répondre. C'est pour moi une douce satisfaction dans ma tâche épineuse de voir mes soins maternels récompensés par ces retours d'affection et de reconnaître dans l'aimable Mrs. Crawley, mon excellente élève d'autrefois, la sémillante et exemplaire Miss Martha McTavish. Je me félicite d'avoir maintenant sous ma direction les filles de beaucoup de vos contemporaines. Ce serait pour moi un véritable plaisir d'entourer vos chères filles de toute ma science et de toute ma sollicitude. En offrant mes compliments respectueux à Lady Faddleston, j'ai l'honneur de lui présenter mes deux amies, Miss Taffin et Miss Hawkey. Chacune de ces jeunes demoiselles est parfaitement en état d'enseigner le grec, le latin, les premiers éléments de l'hébreu, les mathématiques, l'histoire, l'espagnol, le français, l'italien et la géographie, la musique vocale et instrumentale, la danse sans l'aide d'un maître, enfin les éléments de sciences naturelles. En outre, Taffin, fille de feu le révérend Thomas Taffin, professeur du collège de Corpus à Cambridge, peut enseigner le syriaque et les éléments de droit constitutionnel. Mais ses 18 ans et son extérieur fort agréable seraient peut-être un obstacle à son entrée chez Sir Huddleston Fuddleston. Miss Laetitia Hawkey, d'autre part, n'est pas dans sa personne très favorisée de la nature. Elle est âgée de 29 ans et sa figure est marquée de petites véroles. De plus, elle boite. Elle a les cheveux roux et une déviation dans la vue. Ces dames possèdent en outre toutes les qualités morales et religieuses. Leurs prétentions, naturellement, sont en rapport avec leurs mérites. Pénétrée de la plus respectueuse reconnaissance pour le révérend Bute Crawley, j'ai l'honneur d'être, chère madame, votre très humble et très obéissante servante, Barbara Pinkerton. P.S. Cette Miss Champ, dont vous me parlez comme gouvernante de Sir Pitt Crawley, baronnet, membre du Parlement, était une de mes élèves. Je n'ai donc rien à dire contre elle. Si son extérieur est désagréable, c'est qu'il ne tient pas à nous de réformer la nature dans ses œuvres. Quant à ses parents, il n'y a pas grand cas à en faire. Son père fut peintre et plusieurs fois banqueroutier. Sa mère, comme je l'ai appris depuis avec horreur, était danseuse à l'opéra. Cependant, Rebecca ne manquait pas de talent, et je ne saurais me reprocher de l'avoir reçue par charité. Ma seule crainte est que les principes de sa mère, qu'on m'avait d'abord dépeinte comme une comtesse française obligée d'émigrer pendant les horreurs de la dernière révolution, mais qui, d'après de nouvelles informations, était une personne d'une moralité fort suspecte, n'est passée chez cette malheureuse jeune fille que j'avais recueillie comme une pauvre délaissée. Sa conduite, j'aime à le croire, sera sans doute restée irréprochable, et je suis convaincu qu'elle ne rencontrera point d'écueil dans l'élégante et exquise société de Sir Pitt Crawley. Miss Rebecca Champ à Miss Amelia Sedley. Je n'ai pas écrit à ma bien chère Amelia depuis plusieurs semaines, car que lui dire sur le palais de l'ennui, comme je l'ai baptisé? Que vous importe si la récolte des navets est bonne ou mauvaise, si le cochon gras pesait 13 ou 14 livres, et si les bestiaux se trouvent bien de leur ration de betterave? Un jour ressemble à l'autre. Avant déjeuner, promenade avec Sir Pitt et son sécateur. Après déjeuner, étude telle quelle dans notre salle. Après l'étude, lecture des dossiers, correspondance avec les hommes de loi sur les baux, les mines de charbons et les canaux, car me voici passé secrétaire de Sir Pitt. Après dîner, homélie de M. Crawley ou tric-trac du baronnet. Pendant cet enchaînement de plaisir, l'air placide de Milady ne varie pas. Dernièrement, une indisposition l'a rendue un peu plus intéressante, ce qui a amené un nouveau personnage au château dans la personne du jeune docteur. Voyez, ma chère, comme les jeunes filles auraient tort de désespérer. Le jeune docteur a donné à entendre à l'une de vos amies que si elle voulait être Mrs. Glauber, elle pourrait devenir le plus bel ornement de la chirurgie. J'ai répondu à cet impudent que la lancette et le mortier devaient suffire à son bonheur. Comme si j'étais née, en vérité, pour être femme d'un chirurgien de campagne. M. Glauber est rentré chez lui tout à fait à l'envers de ce refus. Il a pris une potion calmante et se trouve maintenant hors de danger. Sir Pitt a fort applaudi à ma résolution. Il serait, je crois, très fâché de perdre son petit secrétaire. Mais je ne compte sur l'affection de ce vieux bandit que dans la mesure dont est capable un être de son espèce. Me marier, et avec un apothicaire de province, surtout après... Non, non, on ne peut pas si vite rompre avec de vieux souvenirs dont je ne veux pas du reste vous parler davantage. Revenons au palais de l'ennui. Depuis quelque temps, ma chère, il a cessé d'être le palais de l'ennui. Miss Crawley est arrivée avec ses chevaux gras, ses domestiques gras, son épagneul gras. Oui, l'immensément riche Miss Crawley, avec ses 70 000 livres sterling placées à 5%, devant laquelle, ou plutôt devant lesquelles, ses deux frères sont en adoration. Elle a l'air très apoplectique, cette chère âme. Il n'est donc pas étonnant que ses deux frères se montrent si fort aux petits soins pour elle. Il faut les voir rivaliser d'empressement à lui apporter un coussin ou à lui présenter son café. Elle dit, car elle n'est pas sotte, « Quand je viens ici, je laisse chez moi Miss Briggs, ma demoiselle de compagnie. Mes frères sont ici mes demoiselles de compagnie, et tout le monde n'en a pas, je vous jure, une paire semblable. Quand elle vient à la campagne, le château tient table ouverte, et pendant un mois au moins, on croirait que le vieux Sir Walpole est revenu l'habiter. Nous avons de grands dîners, et nous allons à 4 chevaux. Les laquais endossent leur livrée canarie la plus neuve. On boit du Bordeaux et du champagne comme si c'était l'ordinaire de toute l'année. Nous avons des bougies de cire dans la salle d'études et du feu pour nous chauffer. Lady Crawley met sa robe la plus splendide et mes élèves quittent leurs gros souliers et leurs jupes de tartan vieilles et écourtées pour porter des bas de soie et des robes de mousseline comme il convient aux élégantes demoiselles d'un baronnet. Rose est rentrée hier dans un état épouvantable. Le cochon du Wiltshire, un de ses favoris et un des plus gros, je vous assure, l'avait jeté par terre et avait mis en pièces sa robe de soie à fleurs lilas en se roulant dessus. Si cela était arrivé la semaine passée, Sir Pitt aurait juré de la plus effroyable façon et allongé les oreilles de la pauvre petite en la mettant au pain et à l'eau pour un mois. Il s'est contenté de dire « Nous réglerons cela, mademoiselle, après le départ de votre tante ». Et il a pris en plaisanterie cet accident assez bouffon. Espérons que son courroux sera dissipé avant le départ de Miss Crawley. Quel admirable élément de paix et de concorde que l'argent! Un merveilleux effet de la présence de Miss Crawley, avec ses 70 000 livres, se manifeste surtout dans la conduite des deux frères Crawley, le baronnet et le ministre, qui se détestent pendant toute l'année et se montrent les meilleurs amis du monde à la Noël. Je vous ai écrit l'an dernier comme quoi cet abominable ministre avait l'habitude de décocher contre nous à l'église ses sermons ridicules et comment Sir Pitt y répondait par d'énormes ronflements. Dès que Miss Crawley arrive ici, il n'est plus question de se chamailler. Le château rend visite au presbytère et vice-versa. Le ministre et le baronnet parlent cochon, braconnier et affaires du comté avec la bouche en cœur et sans jamais se quereller, même après boire. C'est que Miss Crawley a déclaré qu'elle ne voulait point de dispute et qu'elle laisserait son argent aux Crawley du Shropshire si on la contrariait. S'ils étaient des gens d'esprit, ces Crawley de Shropshire, ils pourraient tout avoir. Mais le Crawley de Shropshire est un ministre comme son cousin du Hampshire et il a mortellement offensé Miss Crawley par ses allures de collet monté. Elle est venue ici dans un accès de rage contre son intolérance. Il aura sans doute, j'imagine, voulu faire la prière le soir. Le livre de sermon est fermé quand Miss Crawley arrive, et M. Pitt, qu'elle déteste, ne trouve rien de mieux que de partir pour la ville. Aussitôt, le jeune élégant, le lion, c'est, je crois, l'expression d'usage, le capitaine Crawley fait son apparition. Vous ne serez pas fâché, je suis sûr, d'en avoir une courte esquisse. Eh bien, Rodon Crawley est un grand et beau garçon de 6 pieds de haut, à la voix éclatante. Il jure beaucoup et il fait trotter les domestiques, qui l'adorent néanmoins, parce qu'il est très généreux de son argent. Aussi ferait-il tout pour lui. La semaine dernière, les gardes-chasse ont presque assommé le bailli et son greffier, qui venaient de Londres pour arrêter le capitaine. On les avait trouvés en embuscade le long du mur du parc, on les a roués de coups, après leur avoir fait prendre un bain forcé, et on allait leur envoyer du plomb comme des braconniers, quand le baronnet s'est interposé. Le capitaine a un mépris filial pour son père. Il l'appelle vieux pingre, vieux ladre, vieux bélitre. Il s'est fait une terrible réputation parmi les dames. Il mène avec lui ses chevaux de chasse et vit avec les squires du comté. Il invite qui bon lui semble à dîner et Sir Pitt n'ose rien dire. Ce dernier craint, en offensant Miss Crawley, de manquer son legs quand elle mourra d'apoplexie. Vous dirai-je un compliment du capitaine à mon endroit ? Il en vaut la peine et il est assez joli. Un soir où l'on dansait, il y avait Sir Huddleston, Fuddleston et sa famille, Sir Giles Wapshot et ses jeunes demoiselles, et bien d'autres encore que je ne connais pas. Eh bien, je lui ai entendu dire, en désignant votre humble servante, « Pardieu, voilà une jolie petite pouliche !» Et il m'a fait l'honneur de danser deux contredanses avec moi. Il est compère et compagnon avec les jeunes squires, et en leur société, il boit, parie, monte à cheval et parle chasse et course. Il traite de bégueule toutes les filles de ce pays, et je crois qu'il n'a pas tort. Vous ne pouvez vous faire une idée de leur dédain pour ma pauvreté. Quand on danse, je suis invariablement assise au piano. Mais l'autre soir, en sortant de table, le capitaine, pris d'une pointe de vin et me voyant condamné au tabouret à perpétuité, jura tout haut que j'étais la meilleure danseuse entre toutes et donna sa parole qu'il ferait venir des violons de Madbury. « Je vais jouer une contredanse, » dit Mrs. Bute Crawley, avec beaucoup d'empressement. Figurez-vous une petite vieille à la peau noire, avec un turban de travers et des yeux brillants. Peu après, le capitaine et votre petite Rebecca dansaient ensemble. Mrs. Bute s'approcha à la fin du quadrille pour me complimenter sur ma grâce à danser. On n'en avait jamais tant entendu de l'orgueilleuse Mrs. Crawley, cousine germaine du comte de Tiptoff, qui aurait cru déroger en rendant visite à Lady Crawley, excepté toutefois lorsque sa belle-sœur venait à la campagne. Pauvre Lady Crawley! Pendant la plus grande partie de ses jours de fête, elle restait dans sa chambre à prendre des pilules. Mrs. Bute s'est tout à coup prise d'une belle passion pour moi. « Ma chère Miss Sharp, me disait-elle, envoyez donc vos élèves au presbytère. Leurs cousines seront bien aises de les voir. » Je la vois venir. Signor Clementi ne nous enseignez pas le piano pour rien. Et tel est le prix pour lequel Mrs. Bute voudrait donner un professeur à ses enfants. Je suis au fait de toutes les petites malices comme si elle prenait soin de m'en instruire. J'irai toutefois, et je suis résolu de lui être agréable. N'est-ce pas le devoir d'une pauvre gouvernante qui n'a ni ami ni protecteur au monde? La femme du ministre m'a fait de grands compliments sur les progrès de mes élèves. Elle pensait sans doute me toucher le cœur, pauvre et ingénue villageoise, comme si mes élèves me faisaient chaud ou froid. Votre robe de mousseline et votre écharpe de soie rose me vont à merveille, à ce qu'on dit. Elles commencent à être bien usées. Mais vous savez, nous autres pauvres filles, nous ne pouvons pas avoir sans cesse des toilettes fraîches. Heureuse, mille fois heureuse, vous qui n'avez qu'à aller à St. James Street et qui possédez une tendre mère pour vous donner tout ce que vous voulez. Adieu, mon cœur. Votre affectionnée, Rebecca. P.S. Que n'étiez-vous là pour voir la mine qu'ont faite les Miss Blackbrook, filles de l'amiral Blackbrook, de jolies filles, ma chère, à la dernière mode de Londres, quand le capitaine Rawdon, malgré la simplicité de mon costume, m'a choisi pour danseuse. Lorsque Mrs. Bute Crawley, dont l'adroite Rebecca a fait pénétrer les artifices, eut obtenu de Miss Sharp la promesse d'une visite, elle pria la toute-puissante Miss Crawley de demander l'approbation indispensable de Sir Pitt. Cette excellente vieille femme, toujours de bonne humeur et désireuse de voir la gaieté et la joie autour d'elle, fut enchantée de cette occasion d'affermir et de cimenter une réconciliation entre ses deux frères. Il fut donc décidé que la jeunesse des deux familles se rendrait à l'avenir de fréquentes visites. Cette amitié dura tout le temps que la vieille et joyeuse médiatrice se trouva là pour maintenir la paix. « Pourquoi avez-vous invité à dîner cette effrontée de Rawdon Crawley ?» dit le recteur à sa femme, tandis qu'ils regagnaient leur logis à travers le parc. « Je n'ai que faire de ce drôle. Il nous traite, nous autres gens de campagne, comme autant de moricauds. Il n'est content que lorsqu'il attrape mon vin à cachet jaune qui me coûte 10 shillings la bouteille. Comme si c'était pour lui. Avec cela, il a une tête infernale. C'est un joueur, un ivrogne, un débauché dans toute la force du terme. Il a tué un homme en duel. Il a des dettes par-dessus les oreilles. Il m'a volé la meilleure part de l'héritage de Miss Crawley. La sœur, et ici le ministre, après avoir montré le poing à la lune, avec l'air d'un homme qui prête serment, continua d'une voix mélancolique, « La sœur assure qu'elle l'a couché sur son testament pour 50 000 livres. C'est tout au plus s'il y en aura 30 000 à partager. » Elle me fait l'effet de s'en aller, dit la femme du ministre. Sa figure était toute rouge quand nous sommes sortis de table. J'ai été obligé de la délasser. Elle a bu 7 verres de champagne, dit à voix basse le révérend. Et quel champagne! Mon frère veut nous empoisonner. Mais vous autres femmes, vous ne vous y connaissez pas. Nous n'y entendons rien, c'est vrai, dit Mrs. Bute Crawley. Elle a bu de l'eau de cerise après dîner, continua le révérend, et a pris son curaçao avec son café. Je n'en voudrais pas prendre un petit verre pour 5 livres sterling. Il y a de quoi brûler les entrailles. Elle n'ira pas loin de ce train-là, Mrs. Crawley. Il faudra qu'elle succombe. C'est trop pour notre pauvre nature humaine. Je vous parie 5-2 que Mathilde décampe cette année. C'est en se livrant à ses profonds calculs, en pensant à ses dettes, à son fils Jim au collège, à Frank à Woolwich, à ses 4 filles qui n'étaient pas des beautés, les pauvres enfants, et qui n'avaient d'autre dot que l'héritage à venir de leur tante, que le ministre et sa femme poursuivaient leur promenade. Pitt ne sera pas si gueux que de vendre la présentation à sa cure. Son fils aîné, le farouche méthodiste, songe au Parlement, continua M. Crawley après une pause. Si Pitt Crawley pourra faire quelque chose, dit sa femme, si par Miss Crawley nous lui arrachons cette promesse en faveur de Jacques. Pitt promettra tout, reprit son frère. Il avait promis d'ajouter une autre aile à la cure. Il avait promis de me faire abandon du champ de Jip et de la prairie de 6 arpents. Qu'a-t-il exécuté de toutes ces promesses? Et cet office de cet homme, à ce vaurien, à ce joueur, à cet escroc, à ce bretteur de Rodon Crawley, que Mathilde laisse la moitié de son argent. Ce n'est pas agir en bonne chrétienne. Non, certes, par le diable. Ce gredin a tous les vices, excepté l'hypocrisie, que son frère a prise pour sa part. Silence, bijou, nous sommes sur les terres de Saint Pitt, interrompit sa femme. Je le répète, c'est le ramassis de tous les vices, Mrs. Crawley. Il n'y a pas là à me chercher noise, madame. N'a-t-il pas tué le capitaine Longfeu? N'a-t-il pas volé le jeune Lord Dovedale à la taverne du Cocotier? Ne m'a-t-il pas fait perdre 40 livres en interrompant le combat entre Bill Soames et Cheshire Trump? Vous le savez bien. Pour ce qui est des femmes, n'avez-vous pas entendu dire que devant moi, dans ma chambre de magistrat? Pour l'amour du ciel, Monsieur Crawley, lui dit sa femme, laissons-là ces détails. Et vous invitez ce drôle chez vous, continua le ministre au comble de l'exaspération. Vous, mère de famille, vous, femme de l'un des ministres de l'Église d'Angleterre, grand Dieu! Bute Crawley, vous êtes fou, dit la femme du ministre, avec un air de dédain. Eh bien, madame, fou ou non, car je n'ai jamais eu, Martha, la prétention d'être aussi rusée que vous, non, jamais, je ne veux point me rencontrer avec Rodon Crawley, voilà qui est positif. J'irai chez Huddleston, entendez-vous, j'irai voir son lévrier noir, et je ferai courir Lancelot contre lui avec un pari de 50 livres. Voilà ce que je ferai, et contre tous les chiens de l'Angleterre. Mais je ne veux pas être nez à nez avec cet animal de Rodon Crawley. Monsieur Crawley, vous êtes gris, suivant votre usage, répliqua sa femme. Le lendemain, lorsque le ministre, à son réveil, demanda un peu de bière, elle lui rappela sa promesse d'aller voir Sir Huddleston Fuddleston le samedi suivant. Et comme les nuits étaient sereines, il calcula qu'en faisant un peu de galop, il pourrait être à temps à son église le dimanche matin. Nous croyons avoir suffisamment démontré que les paroissiens de Crawley avaient autant à s'applaudir de leur ministre que de leur squire. Miss Crawley était à peine arrivée au château que par sa puissance fascinatrice, Rebecca avait déjà gagné le cœur de cette excellente vieille évaporée, comme elle avait réussi à emporter celui des innocents campagnards dont nous venons de tracer le portrait. Un jour, en allant à sa promenade accoutumée, elle jugea à propos de demander la compagnie de la petite gouvernante. La promenade n'était pas finie que Rebecca s'était déjà conciliée les affections de la vieille dame. Elle avait daigné sourire 4 fois et s'amuser pendant tout le temps de la route. « Et pourquoi Miss Sharp ne dîne-t-elle pas avec nous ? » dit-elle à Sir Pitt, qui avait arrangé un dîner d'apparat et invité tous les baronnets du voisinage. « Mon cher, vous ne supposez pas que je veuille parler poupon avec Lady Fuddleston ou procédure avec cette vieille oie de Sir Giles Wapshot. Je réclame une place pour Sharp. Que Lady Crowley reste dans sa chambre si nous sommes au complet. Mais la petite Miss Sharp aura son couvert. De tout le comté, c'est la seule personne avec qui l'on puisse causer. Après un désir aussi impératif, on donna avis à Miss Sharp, la gouvernante, qu'elle aurait à dîner au rez-de-chaussée avec l'illustre compagnie. Et tandis que Sir Huddleston, après avoir en grande pompe et en grande cérémonie conduit Miss Crowley dans la salle à manger, se disposait à prendre place à côté d'elle, la vieille dame cria d'une voix aiguë « Becky Sharp, Miss Sharp, venez à côté de moi. Vous m'amuserez pendant le dîner. Sir Huddleston ira s'asseoir près de Lady Wapshot. » Quand la soirée fut terminée, que les voitures furent parties, l'insatiable Miss Crowley répétait encore « Venez avec moi dans mon cabinet de toilette. Nous m'aiderons de la compagnie. » Et cette paire d'amis s'en acquitta à qui mieux mieux. Le vieux Sir Huddleston avait soufflé comme une baleine pendant tout le dîner. Sir Giles Wapshot avait une manière à lui d'avaler sa soupe par une bruyante aspiration. Sa femme clignait de l'œil gauche. Becky faisait à ravir la charge de tous ses travers, aussi bien que des incidents de la conversation dans le cours de la soirée, sur la politique, la guerre, les sessions du Parlement, graves et importants sujets de toute conversation entre gentilshommes campagnards. Quant à l'ébouriffante toilette de Miss Wapshot, au fameux chapeau jaune de Lady Fuddleston, Miss Sharp les mettait en morceaux, au grand amusement de celle qui l'écoutait. « Ma chère, vous êtes une vraie trouvaille !» s'écriait Miss Crowley. « Je voudrais vous emmener avec moi à Londres. Mais je ne pourrais pas faire de vous mon souffre-douleur comme de cette pauvre Briggs. Non, non, vous êtes trop espiègle, trop fière, n'est-ce pas, Firkin ?» Mrs. Firkin, qui arrangeait les cheveux clairsemés sur le crâne de Miss Crowley, secoua la tête et dit avec un air des plus sardoniques « Oui, mademoiselle est très fine. » Mrs. Firkin éprouvait cette jalousie naturelle et commune aux plus honnêtes femmes à l'égard des autres personnes de leur sexe. Après s'être débarrassée ainsi de Sir Huddleston Fuddleston, Miss Crowley établit qu'à l'avenir, Rawdon Crowley lui donnerait le bras pour aller à table et que Becky lui porterait son coussin, ou qu'à son choix, elle donnerait le bras à Becky et le coussin à Rawdon. « Nous sommes faits pour être ensemble, » disait-elle. « Nous sommes, ma toute belle, les seuls vrais chrétiens du comté. » Elle ne donnait point par là une bien haute idée de la religion de l'endroit. À côté de ces belles dispositions religieuses, Miss Crowley affichait, comme nous l'avons dit, des opinions ultralibérales, et ne manquait jamais l'occasion de les laisser percer de la manière la plus franche. « Belle chose que la naissance, ma chère, » disait-elle à Rebecca, « voyez mon frère Pitt, voyez les Huddleston, qui sont ici depuis Henri II, voyez ce pauvre Bute au presbytère. Y en a-t-il un parmi ces gens-là qui vous vaille en intelligence, en bonne manière ? Vos valoirs ? Ils ne valent même pas cette pauvre chère Briggs, mademoiselle de compagnie, ou Rinceur, mon sommelier. Mais vous, mon amour, vous êtes un petit prodige, un vrai bijou. Vous avez plus de cervelle dans votre tête que tout le comté ensemble. Si le mérite était à sa place dans ce monde, vous seriez duchesse. Mais non, il ne devrait point y avoir de duchesse du tout, et vous ne devriez avoir personne au-dessus de vous. À mes yeux, mon ange, vous êtes autant que moi, et sous tous les rapports. Mettez un peu de charbon dans le feu, ma chère. Voulez-vous prendre cette robe pour y faire quelques changements ? Vous travaillez comme une fée. » C'est ainsi que cette vieille égalitaire chargeait son ange de ses commissions et de ses reprises et lui faisait lire des romans tous les soirs jusqu'au moment où elle s'endormait. À l'époque où nous sommes, le monde élégant venait d'être mis en révolution par deux aventures qui, comme le disaient les journaux du temps, avaient de quoi donner de la besogne au docteur à longue robe. L'enseigne Shafton était partie avec Lady Barbara Fitzurse, fille du comte des Brouillards et riche héritière. D'autre part, V.A. Vane, homme de 40 ans sonnés, connu jusqu'alors pour sa conduite irréprochable et à la tête d'une nombreuse famille, avait d'une façon subite et scandaleuse quitté sa maison pour les beaux yeux d'une actrice, Mrs. Rougemont, âgée de 65 ans. C'est aussi ce qu'on avait de mieux à dire en faveur de ce cher Lord Nelson, disait Miss Crowley. Il aurait fait le diable pour une femme. Un homme qui se conduit ainsi ne peut manquer d'avoir du bon. J'adore ces mariages d'inclination. Un noble, à mon sens, ne peut mieux faire que d'épouser la fille d'un meunier. Voyez Lord Flowerdale. Aussi, toutes les femmes sont furieuses. Je voudrais vous voir enlever, ma chère, par quelque noble amant. Vous êtes assez jolie pour cela, au moins. Avec deux postillons. Oh, ce serait charmant, laissa échapper Rebecca. Et après, ce que j'aime le plus, c'est de voir un pauvre diable épouser une jeune héritière. Je parierais que Rodan finira par enlever quelque femme. Une riche ou une pauvre? Ah, que vous êtes simple! Rodan n'aurait pas un shilling sans ce que je lui donne. Il est criblé de dettes. Il a à refaire sa fortune et à s'avancer dans le monde. Est-il donc fort habile? Demanda Rebecca. Habile, ma chérie? Il ne voit rien au monde au-delà de ses chevaux, de son régiment, de ses équipages de chasse, des plaisirs du jeu. Mais il réussira. C'est un si délicieux mauvais sujet. Savez-vous qu'il a tué un homme et envoyé une balle dans le chapeau d'un père qui l'avait outragé? On l'adore à son régiment. Tous les jeunes gens de chez Vatier et du Cocotier ne jurent que par lui. Quand Miss Rebecca Champ écrivait à sa tendre amie le récit du petit bal de Kroll et la reine, et la manière dont elle avait été distinguée pour la première fois par le capitaine Crowley, elle ne faisait pas une relation tout à fait exacte des faits. Le capitaine l'avait distinguée nombre de fois auparavant. Le capitaine l'avait rencontrée dans maintes promenades. Le capitaine s'était trouvé en face d'elle dans 1000 couloirs et passages. 20 fois dans une soirée, le capitaine se penchait sur le piano où elle chantait. Pendant ce temps, Milady restait dans sa chambre, se trouvait indisposée, et on n'y prenait même pas garde. Le capitaine avait écrit des billets à Rebecca avec les plus beaux jambages et la plus belle orthographe que pouvait y mettre un dragon à peine dégrossi. Mais l'épaisseur est une qualité qui réussit tout comme une autre auprès des femmes. Au premier billet qu'il déposa entre les feuillets de la romance que chantait la petite gouvernante, celle-ci se leva, le regarda fixement et, prenant du bout des doigts le poulet triangulaire, s'en amusa comme d'un chapeau à cornes. Puis, s'avançant droite à l'ennemi, elle jeta le message au feu, fit une profonde révérence et, allant reprendre sa place, se mit à chanter plus gaiement qu'auparavant. « Qu'est-ce que cela ?» dit Miss Crowley, interrompue dans son somme d'après-dîner par cet arrêt de la musique. « C'est un poulet qui chante faux, » dit Miss Sharp en riant. Rodan Crowley écumait de rage et de dépit. En présence de l'engouement non équivoque de Miss Crowley pour la nouvelle gouvernante, il y avait de la générosité à Mrs. Bute Crowley de n'être point jalouse et de faire à la cure un bon accueil à cette jeune personne. À elle, à Rodan surtout, le rival de son mari, pour les 5% de la vieille fille. Mrs. Crowley et son neveu ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Celui-ci laissait la chasse, dédaignait les avances de Fuddleston, n'allait point dîner avec les officiers du dépôt à Mudbury, et tout cela pour le plaisir d'aller au presbytère de Crowley. C'est que Miss Crowley y était aussi. Leur maman étant malade, pourquoi les petites n'y seraient-elles pas allées avec Miss Sharp? Les petites filles, ces pauvres enfants, y allaient donc avec Miss Sharp. Et le soir, on revenait tous ensemble à pied. Non pas Miss Crowley, elle aimait mieux sa voiture. Mais la promenade à travers les prairies de la cure jusqu'à la petite porte du parc, dans un bois épais, sous une des sombres avenues de Crowley-la-Reine, était délicieuse au clair de lune pour deux amants de la nature comme le capitaine et Miss Rebecca. « Oh, les étoiles, les belles étoiles !» disait Miss Rebecca en levant au ciel ses yeux verts et brillants. « Il me semble que je ne tiens plus à la terre lorsque je les contemple. » « Oh, ah, certes, oui !» « C'est absolument comme moi, Miss Sharp, » répliquait l'autre enthousiaste. « Mon cigare ne vous incommode point, Miss Sharp ?» En plein air, l'odeur du cigare était la chose que Miss Sharp aimait le mieux au monde. Elle en donna la preuve de la façon la plus charmante. Prenant celui du capitaine, elle tira une bouffée, poussa un petit cri accompagné d'un léger sourire, puis le rendit au propriétaire. Celui-ci retroussa sa moustache, aspira fortement, et le petit brasier portatif jeta un reflet rouge sur les arbres voisins. « Morbleu, l'excellente cigale, c'est la meilleure que j'ai fumée de ma vie !» Son esprit et sa conversation avaient en verve et en éclat tout ce qu'on pouvait attendre d'un dragon peu civilisé. Le vieux Sir Pitt, tout en fumant sa pipe, en prenant sa bière et en épiloguant avec John Horrocks sur le mouton destiné au couteau, épiait le jeune couple de la fenêtre de son cabinet. Avec d'épouvantables jurons, il protesta que, n'était Miss Crawley, il prendrait Rodan par les deux épaules et le jetterait à la porte comme un drôle qu'il était. « Bien sûr que ce n'est là qu'un mauvais garnement, » faisait M. Horrocks, « et son valet Flathers est encore pis. » L'autre jour, il a fait du tapage dans la chambre de l'intendante à cause des dîners et de la bière. « Comme pas un maître n'en aurait fait, » reprenait le complaisant Horrocks. « Mais Miss Champ a de taille à lui répondre, Sir Pitt, » continua-t-il après une pause. « Eh oui, sans doute, au père comme au fils. » Chapitre 12, où l'on fait du sentiment. Nous allons maintenant quitter ce séjour pastoral et ces honnêtes personnes, pratiquant les vertus champêtres, pour nous transporter à Londres et voir ce qui devient Miss Amelia. C'est la moindre de nos préoccupations, nous écrit un correspondant inconnu avec les dédiés les plus délicats et un cachet de cire rouge. Elle est fade et monotone. On ne s'arrêterait pas si l'on voulait aller jusqu'au bout dans cette charitable litanie. Mais bien que certaines personnes pour lesquelles je professe le plus profond respect m'aient souvent dit que Miss Brown est une petite fille insignifiante, que Mrs. White n'a pour elle que son petit minois chiffonné, qu'il n'y a rien à dire en faveur de Mrs. Black, je me rappelle cependant avoir eu les plus délicieuses conversations avec Mrs. Black. Et naturellement, chère madame, je dois être discret. Je vois les hommes faire cercle autour de la chaise de Mrs. White et tous les jeunes gens se battre pour danser avec Mrs. Brown. Je suis donc tenté de croire que les dédains de son sexe sont souvent le plus bel éloge pour la femme qui en est l'objet. Sous ce rapport, les jeunes demoiselles de la société d'Amelia ne laissaient rien à désirer. Ainsi, l'on ne voyait point de plus touchant accord que celui des demoiselles Osborne, sœur de George et de demoiselle Dobbin, dans l'estimation des très minces mérites de Miss Sedley. Elle n'en revenait pas de voir leur frère lui trouver quelque charme. Les demoiselles Osborne, jeunes filles aux noirs et beaux sourcils, qui avaient eu les meilleures gouvernantes, les meilleurs maîtres et les meilleures couturières, la traitaient avec tant d'affection et de condescendance, la patronnaient avec tant de supériorité, que la pauvre enfant restait muette en leur présence et avait tous les deux l'air d'une personne pauvre d'esprit. Leur charité se chargeait du reste. Elle faisait de son côté de grands efforts pour les aimer. N'était-elle pas les sœurs de son futur mari? Elle passait de longues matinées avec elles et de plus terribles et plus sérieuses après-dîner. Elle les accompagnait en grande pompe dans la voiture de famille avec Miss Worth, leur gouvernante, cette vestale aux larges omoplates. Par manière de distraction, elle la menait au concert, à l'oratorio, à Saint-Paul, aux enfants trouvés. Et la terreur qu'elle avait de ses amis était si grande qu'à la douce voix de ses enfants, elle n'osait pas se laisser aller à son émotion. Dans cette maison respirait le bien-être. La table de leur père était somptueuse et bien servie. Leur société avait des prétentions à l'élégance et à la cérémonie. Leur amour-propre était excessif. Elles avaient le plus beau banc aux enfants trouvés. Dans toutes leurs habitudes, il y avait étalage de pompes et d'étiquettes. Elles prenaient tous leurs amusements avec un air d'imperturbable convenance. Et cependant, Amelia n'était jamais plus contente que lorsqu'elle ne les rencontrait pas quand elle venait les voir. Miss Jane Osborne, Miss Mariah Osborne et Miss Watt se demandaient avec un étonnement toujours croissant. Qu'y a-t-il de si séduisant pour George dans cette créature? Comment donc, va s'écrier quelque esprit chicanier, comment Amelia, qui avait tant d'amis à la pension, qu'on y aimait si tendrement, se trouve-t-elle en butte, dès son entrée dans le monde, aux critiques de son sexe? Mon cher monsieur, il n'y avait pas d'homme chez Miss Pinkerton, excepté le maître de danse, et il n'avait rien en lui de bien propre à allumer la guerre entre ses élèves. Mais quand George, le cavalier accompli, sortait tout de suite après déjeuner et dînait dehors environ 6 fois par semaine, il n'est pas étonnant que ses sœurs négligées en ressentissent un peu de dépit. Quand le jeune Bullock de la maison Alker, Bullock & Company, banquier, Lombard Street, fort empressé depuis 2 ans auprès de Miss Mariah, allait demander à Amelia de lui accorder un cotillon, pouvez-vous supposer que cela fit plaisir à notre jeune dame? Et cependant, à l'entendre, elle se donnait pour une petite fille bien naïve et sans rancune. « Je suis enchantée de vous voir aimer cette chère Amelia, » disait-elle d'un air fort tendre à M. Bullock, à la suite d'une contredanse. « Elle doit épouser mon frère Georges. Il n'y a pas grand fond chez elle, mais c'est une si bonne fille. » Et sans la moindre affectation. Nous l'aimons tant à la maison. Chère demoiselle, qui pourrait dire le degré d'affection et d'enthousiasme contenu dans ce tant? Miss Watt et ses deux charitables jeunes filles s'extasiaient si hautement et si souvent en présence de George Osborne sur l'énormité du sacrifice qu'il faisait et sur sa générosité chevaleresque à se mettre ainsi aux pieds d'Amelia, que je ne serais pas éloigné de croire qu'il se regardait comme un des soldats les plus méritants de l'armée anglaise et qu'il se laissait adorer par esprit de résignation. Toutefois, s'il quittait la maison tout le matin, comme on l'a dit, s'il dînait dehors 6 jours par semaine, ce qui le faisait passer auprès de ses sœurs pour un jeune passionné, toujours fourré dans les jupons de Miss Sedley, il n'en allait pas plus souvent pour cela chez Amelia, malgré toutes les suppositions possibles. Plus d'une fois, le capitaine Dobbin étant allé rendre visite à son amie, Miss Osborne, cette demoiselle accordait au capitaine une attention particulière et aimait beaucoup à entendre ses histoires militaires et à apprendre des nouvelles de sa chère maman, Miss Osborne lui désignait en riant l'autre côté du square et lui disait « Oh, pour trouver Georges, vous n'avez qu'à aller chez les Sedley. Nous ne le voyons plus de la journée. » Alors le capitaine prenait un rire maladroit et contraint et détournait la conversation, comme un homme qui a un grand usage du monde, sur quelques lieux communs d'un intérêt général, comme l'opéra, le dernier bal du prince à Carlton House, la pluie et le beau temps, cette suprême ressource des salons. « Qu'il est innocent, votre bien-aimé, » disait Maria à Miss Jane après le départ du capitaine. « Avez-vous remarqué sa rougeur quand je lui ai parlé de Georges occupé à faire sa cour ?»« C'est dommage que Frédéric Bullock n'ait pas un peu de sa retenue, Maria, » répliqua la sœur aînée avec un hochement de tête. « De la retenue? Vous voulez dire de la gaucherie, Jane? Je n'ai pas besoin que Frédéric vienne faire un accroc à ma robe de mousseline, comme le capitaine Dobbin à la vôtre, » « Chez Mrs. Perkins. »« À votre robe, lui ?» demanda Miss Watt. « Comment a-t-il fait cela? Est-ce qu'il ne dansait pas avec Amelia ?» De fait, lorsque le capitaine Dobbin rougissait et regardait d'une façon si gauche, c'est qu'il pensait à quelque chose dont il ne jugeait pas à propos d'informer ces jeunes dames. À savoir qu'il avait déjà passé par la maison de M. Sedley sous le prétexte tout naturel de voir Georges. Georges n'y était point. Et Dobbin avait trouvé la pauvre Amelia toute seule, assise à la fenêtre du salon, avec un air triste et pensif. Après quelques paroles insignifiantes et banales, elle s'était aventurée à demander s'il était vrai que le régiment eût reçu un ordre de départ prochain, et si le capitaine Dobbin avait vu M. Osborne ce jour-là. Le régiment n'avait point reçu d'ordre de départ, et le capitaine Dobbin n'avait pas vu Georges. Il est très probablement avec sa sœur, avait articulé le capitaine. Faut-il y aller et relancer ce paresseux ? Elle lui avait tendu la main en signe de remerciement, et on l'avait vu traverser la place. Elle attendit longtemps, et Georges ne vint pas. Pauvre petit cœur, toujours à espérer et à battre, toujours patient et plein de foi. Qu'y a-t-il à décrire dans cette vie-là ? Et l'on n'y trouve point ce qu'on appelle des incidents. Tout le long du jour, c'est le même sentiment. Quand viendra-t-il? Même penser le soir en s'endormant, le matin au réveil. Et Georges jouait au billard avec le capitaine Cannon dans Swallow Street, pendant qu'Amelia s'informait de lui auprès du capitaine Dobbin. Car c'était un joyeux et aimable compagnon, et il excellait à tous les jeux d'adresse. Une fois, après 3 jours d'absence, Miss Amelia prit son chapeau et se rendit chez les Osborne. « Quoi, vous laissez notre frère pour venir nous voir ?» dirent les jeunes filles. « Vous vous êtes donc querellée, Amelia ? Contez-nous cela. » « Non, il n'y avait pas eu de querelle. »« Qui pourrait se quereller avec lui ?» répondit-elle, les yeux remplis de larmes. « Elle venait seulement pour voir ses chers amis avec lesquels elle ne s'était point trouvée depuis si longtemps. Ce jour-là, elle fut si maladroite et si gauche que la demoiselle Osborne et leur gouvernante, qui étaient toujours au carreau pour la voir s'en aller, s'étonnèrent de plus en plus que George ait pu trouver quelque chose de bien dans cette pauvre petite Amelia. Et pourquoi aurait-elle livré son timide et tendre cœur à l'inspection de ces jeunes demoiselles, à leurs yeux noirs et assurés? Il valait mieux le cacher et le replier sur elle-même. Je sais bien que les demoiselles Osborne excellaient à donner leur avis sur un châle de cachemire ou une jupe de satin rose. Quand Miss Turner avait fait teindre le sien en pourpre, quand Miss Pickford avait métamorphosé sa palatine d'hermine en manchon et en garniture, je vous assure que ces changements n'avaient point échappé à ces pénétrantes demoiselles. Mais, voyez-vous, il y a des choses plus délicates que la fourrure ou le satin, que les splendeurs de Salomon, que toute la garde-robe de la reine de Saba, des choses dont la beauté échappe à l'œil de plus d'un connaisseur. Il faut du soin pour pénétrer ces douces et tendres âmes, semblables à ces fleurs parfumées qui s'épanouissent dans l'ombre et la solitude, tandis que vous avez les yeux crevés par d'autres grandes fleurs aussi larges que des bassinoires de cuivre et qui ont la prétention de détrôner le soleil. Miss Sedley n'était pas une fleur de cette dernière espèce. Une bonne jeune fille, placée sous l'aile maternelle, ne peut nous offrir de ces péripéties émouvantes auxquelles prétendent les héroïnes de romans. On peut voir les vieux oiseaux se débattre contre les pièges ou fuir devant le fusil du chasseur. Les voraces éperviers peuvent les poursuivre, et alors il faut ou se dérober à leurs griffes ou se résigner à périr. Mais les petits oiseaux qui sont encore au nid mènent, dans le duvet et dans la mousse, une existence paisible et peu romanesque. Leur tour viendra aussi de prendre leur essor. Beck et Sharp, dans la province, volaient de ses propres ailes, sautant de branche en branche, au milieu d'une infinité de pièges. Et de côté et d'autre, elle ramassait sa pâture avec assez de bonheur et de succès. Amelia, au contraire, coulait une vie douce dans son nid de Russell Square. Allait-elle dans le monde, c'était sous la conduite de personnes plus âgées. Et puis, aucun malheur ne semblait pouvoir l'atteindre dans cette maison où régnait l'opulence et le bien-être, où elle se sentait toujours protégée par la plus vive affection. Maman avait à s'occuper de ses affaires de ménage, de ses promenades du jour, de cette délicieuse tournée dans les plus beaux magasins, tout ce qui constitue l'amusement ou la profession, comme il vous plaira de l'appeler, des riches ladies de Londres. Papa dirigeait ses mystérieuses opérations au milieu de la cité, centre d'agitation à cette époque où la guerre embrasait l'Europe, où l'on jouait des royaumes. Alors le journal Le Courrier comptait 10 000 souscripteurs. Un jour, on annonçait la bataille de Vittoria, un autre jour, l'incendie de Moscou. Ou bien c'était le crieur public qui, en passant à l'heure du dîner sous les fenêtres de Russell Square, faisait entendre les paroles suivantes « Bataille de Leipzig, 600 000 hommes engagés, déroute complète des Français, 200 000 morts. » Le vieux Sedley était rentré une ou deux fois à la maison avec un air préoccupé. Il n'y avait rien d'étonnant à cela lorsque de telles nouvelles bouleversaient tous les cœurs et toutes les banques de l'Europe. Cependant, le même train se soutenait à Russell Square comme si les affaires politiques n'eussent pas été dans un complet désarroi. La retraite de Leipzig ne diminua pas le nombre de plats que Maître Sambeau apportait de l'office. Les alliés entraient en France, et la cloche annonçait toujours le dîner à 5 heures précises, comme à l'ordinaire. La pauvre Amelia ne se souciait guère plus de Brienne que de Montmirail. Que lui importait la guerre? Enfin eut lieu l'abdication de l'empereur. Alors elle battit des mains et adressa ses prières au ciel avec une vive reconnaissance. Dans l'élan de son âme, elle se jeta au cou de George Osborne, au grand étonnement de tous les témoins de ce transport passionné. La paix était conclue, l'Europe allait entrer dans une période de calme, et en conséquence, le régiment du lieutenant Osborne ne pouvait plus recevoir un ordre de départ. C'était en ce sens que raisonnait Amelia. La destinée de l'Europe se résumait pour elle dans le lieutenant Osborne. Il n'avait plus de danger à courir, elle pouvait donc remercier le ciel. À lui seul, il représentait pour elle l'Europe, l'empereur, les monarques alliés et l'auguste prince régent. Il était son soleil et sa lune, et je ne serais pas éloigné de croire que, dans son esprit, l'illumination et le bal de Mansion House, offerts au souverain, n'avaient eu lieu qu'en l'honneur de George Osborne. Nous avons montré comment Miss Sharp avait été élevée à la dure école de l'égoïsme et de la pauvreté. L'amour était maintenant le dernier maître de Miss Amelia Sedley, et notre jeune demoiselle faisait des progrès vraiment merveilleux dans cette science si répandue. En 18 mois d'application persévérante et quotidienne, que de secrets Amelia avait appris de son puissant instituteur, dont ne se doutaient pas Miss Worth et les jeunes demoiselles d'en face, non plus que la vieille Miss Pinkerton de Cheswick. Ces mystères n'étaient pas faits pour ces vierges précieuses et à l'air pincé. Quant à Miss Pinkerton et à Miss Worth, elles étaient hors de question. Dieu me garde d'avoir à me reprocher une pareille idée à leur endroit. Miss Maria Osborne avait bien un engagement avec M. Frédéric Auguste Bullock de la maison Bullock & Company. Mais c'était un engagement des plus respectables, et il ne lui en aurait pas coûté davantage de prendre le vieux Bullock, son esprit ne voyant dans le mariage que ce que doit y voir une jeune demoiselle bien élevée, à savoir une maison de ville à Park Lane, une maison de campagne à Wimbledon, une calèche avec 2 magnifiques chevaux, des laquais à l'avenant, enfin un quart dans les profits annuels de la forte maison Alker et Bullock. C'était sous cette forme que se présentait à elle la personne de Frédéric Bullock. Si la mode nous eût déjà donné les fleurs d'oranger, emblème de la chasteté féminine empruntée par nous à la France, où presque toutes les demoiselles sont vendues en mariage, Miss Maria, parée de la couronne immaculée, n'aurait pas hésité à partir pour le voyage de la vie, à côté de Bullock Senior, malgré sa goutte, ses années, sa tête chauve et son nez rouge, et avec une modestie parfaite, elle eût fait à son bonheur le sacrifice de sa belle jeunesse. Malheureusement, le vieillard était déjà marié. C'est pour cela qu'elle avait reporté ses affections sur le jeune homme. Ô fleur d'oranger à peine éclose! L'autre jour, je vis Miss Trotter émailler des fleurs sudites. Elle s'élançait dans la voiture de noces à Saint-Georges, Hanover Square, et Lord Mathusalem l'y suivait en clopinant. Avec quelle charmante modestie elle baissa les stores de la voiture, cette chère innocente. La moitié des voitures de la foire aux vanités s'était donné rendez-vous à ce mariage. Ce n'était point dans ce genre d'amour qu'Amélia cherchait le complément de son éducation. De bonne petite fille, elle était devenue en une année bonne demoiselle, pour finir par être une bonne femme quand l'heureux moment en sera venu. Cette jeune demoiselle, et peut-être y avait-il l'imprudence de la part de ses parents à se prêter à cette adoration déréglée, à ces idées romanesques. Enfin, cette jeune demoiselle aimait de tout son cœur le jeune officier au service de Sa Majesté, avec lequel notre connaissance n'a été encore que fort rapide. Il se présentait à elle comme la première pensée à son réveil, le dernier nom à prononcer dans ses prières. Elle n'avait jamais vu un cavalier aussi élégant, aussi spirituel, avec aussi bonne façon à cheval, en un mot, un tel héros. Ne nous parlez point de la grâce du prince. Celle de Georges était bien autre chose. Elle avait vu M. Brummel, point de mire de toutes les louanges. Mais il ne s'agissait pas de le comparer à son Georges. Non, aucun des lions de l'opéra n'était digne d'être son rival. Il méritait pour le moins de devenir un prince des 1001 nuits. Aussi, quelle générosité à lui de s'abaisser jusqu'à Cendrillon. Miss Pinkerton aurait sans doute cherché à ébranler cette aveugle passion si elle avait été la confidente d'Amélia, mais sans le moindre succès, croyez-le bien. Ainsi le veulent et la nature et l'essence de certaines femmes. Les unes sont faites pour dominer, les autres pour aimer. Heureux ceux qui tombent de préférence sur une de cette dernière espèce. Amélia, tout entière à cette passion absorbante, négligeait ses 12 bonnes amies de Cheswick avec toute l'insensibilité de l'égoïsme. Il était naturel que ce seul sujet l'occupât tout entière. Miss Saltire était trop froide, on ne pouvait la prendre pour confidente. Amélia n'aurait jamais songé à en parler à Miss Swartz, la jeune héritière de Saint-Kitt à la chevelure laineuse. La petite Laura Martin venait passer chez elle ses jours de congé, et ma persuasion est qu'elle lui avait accordé sa confiance, qu'elle avait promis à Laura de la prendre avec elle quand elle serait mariée. Elle devait être entrée avec Laura dans de grands détails sur la passion de l'amour, étude singulièrement utile et neuve pour cette petite personne. Hélas, hélas, je crains bien que l'esprit de notre pauvre Amélia n'ait dévié de son aplomb. À quoi donc songeaient ses parents en n'empêchant pas ce petit cœur de battre si fort? Le vieux Sedley n'avait pas l'air de prendre garde à tout cela. Il paraissait beaucoup plus grave que d'habitude, et ses affaires de banque semblaient l'absorber tout entier. Mrs. Sedley était d'une nature accommodante et peu curieuse, en sorte qu'elle n'éprouvait pas même la moindre jalousie. Quant à M. Joe, il était à Cheltenham, l'objet d'un siège en règle de la part d'une veuve irlandaise. Amélia était donc livrée à elle-même dans la maison paternelle, et peut-être se trouvait-elle dans un trop grand isolement. Ce n'est pas que le moindre doute effleura son cœur, car elle était sûre de George. Au Horse Guards, on n'avait pas toujours la permission de quitter Chatham, et puis il avait à voir ses amis et ses sœurs, à entretenir ses rapports de société quand il venait à la ville. Car la société n'avait pas de plus bel ornement. Et puis encore, quand il était au régiment, il avait trop de besogne pour écrire de longues lettres. Je sais fort bien où elle serrait le paquet de celles qu'elle avait déjà reçues. Je pourrais bien m'introduire dans sa chambre et les lui dérober, comme avec l'anneau de Gigès. Non, non, ce serait mal. Je veux seulement y pénétrer comme un rayon de lune et jeter un chaste regard sur ce lit où reposent la fidélité, la beauté, l'innocence. Si les lettres d'Osborne avaient un laconisme militaire, celles de Miss Sedley à M. Osborne pourraient donner à ce roman une dimension insupportable, même pour le lecteur le plus sensible. Non seulement elle remplissait 4 pages de grand format, mais elle lui adressait encore des tirades entières, extraites de recueils de poésie, et citait de longs passages avec la plus frénétique obstination. On eût dit qu'elle prenait à tâche de donner partout des signes de son état déplorable. Ses lettres fourmillaient de répétitions, elle avait une orthographe douteuse, et elle prenait de fréquentes licences avec la prosodie. Mais, mesdames, si vous ne pouvez toucher le cœur en dehors des règles de la syntaxe, si l'on ne peut vous aimer malgré vos fautes contre la versification, j'envoie au diable l'art poétique et prie la peste d'étouffer le dernier pédant.